citation que vous ayez, c'est... Voilà. Donc, je crois qu'on s'était quitté sur le christocentrisme de Bérulle. Je ne me trompe pas. Et hein, c'est bien ça. Voilà. Pardon ? Voilà. Alors, voilà. C'est ça qui est important. Ces états et mystères du Verbe incarné, c'est quelque chose que vous trouvez très présent dans son enseignement et de bien réaliser ce que ça signifie, vous voyez. C'est, ce qui est important, c'est le thème de l'imitatio Christi, c'est évidemment omniprésent dans la spiritualité chrétienne. Bon, on l'a rencontré déjà l'an dernier, hein, quand on a fait le parcours avec les pères, avec les pères du désert, l'imitation du Christ. Mais là, ce qui est important, vous voyez, c'est... on fait, j'allais dire, une imitation au second degré, ou plutôt une imitation intérieure du Christ. Et c'est là où Pierre de Bérulle va parler des états et mystères du Verbe incarné comme étant l'attitude intérieure de Jésus. Oui. L'attitude intérieure de Jésus, et celle qu'il va rencontrer particulièrement, c'est l'attitude de renoncement complet à son moi propre. C'est le Jésus de l'incarnation, c'est le Jésus devant son Père, c'est vraiment le Verbe incarné. Donc la participation au mystère du Christ n'est pas simplement une imitation du Christ au sens, vous voyez, d'une imitation extérieure, mais une union avec la propre vie du Christ et ses actions. Et spécialement, la prière du Christ en tant que relation du Christ avec son Père. C'est jusqu'à ce degré-là que le chrétien, chez Bérulle, va chercher à participer au mystère du Christ. Et on avait vu, on en a parlé, hein, on a un peu même... c'est le Christ comme parfait adorateur qu'on va essayer d'imiter. Une fois incorporé au Christ, le chrétien adorera Dieu, non seulement par ses actes, mais par la substance de son être même. Ça, je crois qu'on l'avait déjà... On l'a vu, non hein, tout ça, on l'a vu. Pour ça qu'il faut... Voilà. Maintenant, je vois où nous en sommes tout à fait. Alors, c'est dans cette ligne qu'il faut comprendre un aspect qui a été très discuté et même qui a donné lieu à une polémique lourde de conséquences. Je vous en dirai un mot. C'est la question du vœu d'esclavage à Jésus et Marie. Le vœu d'esclavage à Jésus et Marie. Alors, ça a donné lieu à une politique et même à des ruptures douloureuses, notamment la rupture de Bérulle avec les carmélites espagnols qui sont venus fonder en France. Ça a été très mal compris, celui-là. Alors, on va essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit. Ce vœu d'esclavage, Bérulle a voulu le proposer aux membres de l'oratoire et aux carmélites. Donc on pourrait dire, vous voyez, au cercle le plus proche de lui, hein, dans les différents auditoires que rencontrait Bérulle, c'était ceux qui lui paraissaient être les plus avancés et ceux qui pourraient le mieux comprendre ce vœu d'esclavage. Bon, les carmélites et leurs amis, comprenez les carmélites espagnols, se sont tout à fait opposés à ça en disant « mais c'est un élément extérieur, étranger, ça n'a rien à voir avec... avec ce que demandait Thérèse d'Avila, vous rajoutez quelque chose, on sort de sa tradition, de son héritage. » Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. D'abord, ce vœu n'est pas tout à fait étranger à l'interprétation assez pessimiste que Bérulle fait des écrits de Paul et d'Augustin. Alors, ne faisons pas de Bérulle un janséniste, pas un janséniste, mais voyez, il s'inscrit un petit peu dans cette ligne de l'augustinisme des traités antipélagiens, où il en ressort une vision de l'homme assez sombre. Le fait que l'homme est corrompu intrinsèquement dans son agir. Et la corruption est telle que l'adhésion totale à Dieu, et Bérulle parle d'adhérence, cette adhérence, cette adhésion complète que le chrétien doit réaliser, c'est sa vocation, c'est à ça aussi que tend l'imitation intérieure du Christ, vraiment adhérer complètement, totalement à Dieu, ça ne peut être que l'œuvre de l'Esprit-Saint. Mais ça ne peut pas aller non plus sans, du côté de l'homme, une renonciation absolue à tout ce qu'il est. Chez Bérulle, les deux vont de pair. Un renoncement total à soi, à ses vues propres, et la docilité au Saint-Esprit. Alors, cette docilité à l'Esprit-Saint comporte divers éléments. Une renonciation volontaire à toute consolation sensible et spirituelle. Vous voyez que jusque-là, les carmélites pouvaient retrouver bien des enseignements qu'ils avaient trouvés chez Jean de la Croix ou chez Thérèse d'Avila. On est, voyez, quand même dans un... même si c'est une autre école, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de points communs. Et plus que ça, on voit bien que Bérulle a reçu aussi du Carmel thérésien. Bon. Renonciation volontaire à toute consolation sensible et spirituelle. Désir fervent d'aimer Dieu de tout son cœur. Accompagné d'une humble prière de demande à cet effet, puisque Bérulle en est conscient, il n'y a que l'Esprit-Saint qui puisse réaliser ça. Une ouverture de son âme aux opérations du Verbe incarné, de façon à vouloir tout ce que le Christ veut, et finalement maintenir cette disposition dans le temps. Et là, vous voyez, on arrive à ce vœu d'esclavage. C'est ça que ça signifie. Donc tous ces éléments de renoncement, de désir fervent d'aimer Dieu et d'une humble prière de demande pour que ça se réalise en l'homme, d'ouverture enfin de son âme aux opérations du Verbe. Voilà, c'est pour maintenir sa disposition, vous voyez, d'annihilation totale de soi devant le Christ que Bérulle va proposer ce saint esclavage à Jésus et à Marie. Alors, du vivant de Bérulle, déjà on lui reproche la proximité, qu'on lui prête en tout cas, aux jansénistes. Et c'est pour se justifier que Bérulle va rédiger deux textes très riches, très beaux, assez difficiles d'accès. Il y en a un qui s'appelle « Le discours de l'État et des grandeurs de Jésus », « Discours de l'État et des grandeurs de Jésus », suivi de « La vie de Jésus ». Alors, ce n'est pas du tout une vie de Jésus au sens où le 19e siècle et le 20e siècle vont en produire. C'est vraiment, vous verrez, enfin, on va lire ensemble un long extrait. C'est une vie de Jésus de l'intérieur. Et dans ces ouvrages où Bérulle essaye de se défendre, il présente tout simplement ce vœu d'esclavage à Jésus, à Marie, en disant, mais vous savez, c'est tout simplement une conséquence logique du vœu de baptême. Les vœux qu'on fait au baptême, de renoncer absolument à Satan, et puis plus que ça, d'adhérer totalement au Christ, c'est ça finalement que je veux faire. Et l'archétype, le modèle pour moi, c'est la renonciation de soi que l'humanité du Christ fit à sa divinité dans l'union hypostatique. Là, vous avez vraiment le cœur théologique, vous voyez. C'est le fait que l'humanité du Christ, au moment de l'union hypostatique, dans le mystère de l'incarnation, a renoncé à avoir une autre personne que celle du Verbe incarné. C'est une nature humaine qui, d'une certaine façon, renonce à son soi, ou plutôt n'a comme soi que le jeu du Verbe incarné. Alors, je vous propose de lire ensemble, ça va quand même... Ça va rendre ça un peu plus concret, j'espère, puis ça va vous permettre de souffler. Et donc, dans notre feuille de route numéro 14, vous l'avez tous avec vous, feuille de route 14, donc le texte numéro 2. Jésus est notre... Ouh là là, pardon, je crois qu'il y a... Oui, non, c'est le texte 3, voilà, pardon, texte 3. Jésus entrant. Alors, il fait un commentaire de l'Épître aux Hébreux. C'est le troisième texte de Bérulle que je vous donne. Vous l'avez tous, oui, ça y est, pas de problème. Il fait le commentaire, vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, Jésus entrant dans le monde a dit, et il cite le psaume, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps, alors me voici, je viens pour faire ta volonté. » Voilà le commentaire qu'en donne Bérulle. Jésus entrant, et non après être entré au monde, c'est-à-dire au même instant qu'il entre au monde et qu'il fait partie du monde, sans tarder, sans différer davantage, il entre dans les saintes pensées que va nous représentant ce divin apôtre. Bon, c'est Paul supposé comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Entrant dans le monde, il dit « D'hostie et d'oblation, tu n'as pas voulu, mais tu m'as fait un corps. » En cette vue et cette connaissance, Jésus adresse la pensée de son cœur à Dieu son Père et lui adresse de si bonne heure qu'en même temps qu'il entre au monde, il entre en traité avec lui, comprenez, en dialogue, en alliance, enfin en offrande aussi, il entre en traité avec lui et en traité bien grand et bien signalé, car il concerne le fond de son état, la condition de sa vie, la suite de ses mystères. Et en ces trois paroles que nous venons d'alléguer, il lui parle de son corps, comprenez, de toute son humanité, hein, c'est aussi de tout ce qu'il est. Il lui parle de son corps et de sa servitude en laquelle il est né et exposé. Tu m'as fait un corps. Ou comme disent les Septantes, tu m'as percé les oreilles, qui était la marque de servitude perpétuelle. Vous voyez, le Christ devient évidemment le modèle du Saint-Esclavage. Tu m'as percé les oreilles, qui était la marque de servitude perpétuelle. Il lui offre et présente ce sien corps destiné, consacré et déjà marqué à la servitude, à la croix, à la mort. Il lui offre ce corps en qualité d'hostie pour la gloire de son Père et pour le salut du monde. Et il le substitue en la place de toutes les hosties que Dieu son Père a reçues jusqu'à présent au monde. Il abroge le premier régime, c'est-à-dire celui du premier sacerdoce, des premiers sacrifices. Il abroge le premier régime pour fonder le second, ajoute ce même apôtre. Ce premier état de Jésus est de telle importance qu'en y celui, c'est-à-dire qu'en lui, qu'en y celui, est établie la religion et la rédemption du monde. Il connaît et accepte la volonté de Dieu sur lui. Il entre en état de son état d'hostie. Adorons et aimons cette première oblation et volonté de l'âme de Jésus, sitôt qu'elle est créée et unie au Verbe éternel et au corps de Jésus dedans la Vierge. Pensons-y souvent, comme y étant obligé par plusieurs titres, car c'est un usage et exercice de Jésus. C'est un exercice et vouloir de son âme divine. Et, ce qui donne un nouveau degré de dignité, c'est le premier usage de la vie de Jésus en la Vierge et au monde. C'est le premier exercice de sa vie sainte, intérieure et spirituelle. Et ces effets nous en sont appliqués par la génération que nous avons de Jésus au baptême et par toutes les actions et institutions de la religion chrétienne qui sont autant de nouveaux liens qui nous lient à Jésus et nous rendent capables des opérations de sa grâce, de la participation de sa vie sainte et de l'infusion de son esprit dedans nos âmes. Ça va, vous avez... Est-ce qu'il y a des questions?
Juste, oui, est-ce qu'il a voulu imposer ça ou est-ce qu'il a simplement proposé ou enfin est-ce qu'il y a tenu...
C'était une proposition, mais une proposition qui lui paraissait très importante. C'était... Alors, il faut que je sois franc, je ne sais pas te dire dans quelle mesure, jusqu'où il allait dans la proposition, toi. Mais pour lui, vous avez bien compris, je crois qu'en lisant ce texte, c'est assez clair, c'est ce qu'a fait Jésus en entrant dans le monde. Voyez. Non seulement c'est ce qu'il a fait en entrant dans le monde, mais c'est le fil rouge de toute ton existence. Voyez. La vie de son âme, d'une certaine façon, la vie de son âme, c'est ça. C'est d'oblation et d'hostie, tu n'as pas voulu, mais tu m'as fait un corps. Voyez. C'est cette disposition très profonde d'offrande, de servitude, et qui va aller jusqu'à la mort. Donc ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas simplement une prière comme ça, mais c'est vraiment la disposition très profonde qui fait que toute la vie de Jésus est offerte. Non seulement sa vie, mais voyez, son humanité. C'est pour ça que vous trouvez tout le vocabulaire de l'hostie, du sacrifice, évidemment à cause de la référence à l'Épître aux Hébreux, mais c'est tout à fait cohérent, ou plutôt, on peut dire que Bérulle, je vais renverser, Bérulle est très cohérent avec, ou très près, du texte et de l'esprit de la lettre aux Hébreux. Avec ce vocabulaire très sacerdotal et sacrificiel. Et c'est cette idée, vous voyez, que le Verbe, c'est ça qu'il faut bien voir, le Verbe s'incarnant prend une humanité, et que cette humanité, d'une certaine façon, par l'âme humaine de Jésus, cette humanité s'offre complètement, oui, pour le projet, ou plutôt le dessein du Père, pour la volonté du Père. Et pour Bérulle, c'est vraiment, si vous voulez, l'archétype de ce que doit vivre le chrétien. Alors, le détail, hein, il suffit de reprendre ce qu'il nous a dit, c'est un usage et exercice de Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est le premier exercice de sa vie sainte, intérieure et spirituelle, et tout cela nous est appliqué par le baptême, par notre naissance en Christ. Donc si on veut vraiment que cette naissance en Christ aboutisse, enfin se déploie, à nous de ratifier ça en entrant dans les mêmes dispositions. Alors vous voyez quand même, Bérulle, c'est pas rien. Enfin, c'est quand même une spiritualité très riche. Et c'est ça que je voulais aussi vous montrer à cette occasion. Non seulement très riche, mais très charpentée au plan théologique.
On a l'impression que pour lui, c'est dans l'acte même de l'incarnation que toute la rédemption est réalisée, puisqu'il dit que c'est dans ce premier état de Jésus, là. Et je crois d'ailleurs que sa vie du intérieur du Christ ne va pas au-delà de la vie à l'intérieur du ventre de sa mère.
Et voilà.
Donc on a l'impression que tout est là, le salut,
tout est là. Tout à fait, tout est là parce que c'est maintenu. D'où, voyez, pourquoi ce vœu ? C'est pour que l'homme, dans sa faiblesse, qui est toujours sujet à reprise, et se donne un moyen, un outil pour maintenir ça dans toute la vie, voyez. D'où ce vœu, pour vraiment en montrer l'importance. Et fait que, bon, un vœu, vous me direz, un vœu, ça oblige pour autant qu'on essaye d'y rester fidèle. Mais c'est pour vraiment marquer que ça doit être maintenu, précisément parce que chez le Christ, ça a été continu. Ça va ? Donc, vous voyez, il me semble que là, on a un texte qui est central, et un texte précisément tiré de la vie de Jésus. Donc les écrits où Bérulle défend le vœu d'esclavage ont été, on le voit, l'occasion de déployer, alors il faudrait continuer, mais de déployer une théologie très, très, très trinitaire d'abord, et une théologie aussi du mystère de l'incarnation. Une théologie, on pourrait le dire aussi, surtout augustinienne par son inspiration. Même si sa doctrine de l'union hypostatique se réfère explicitement à saint Thomas d'Aquin. Alors, je conclue avec le père de Ville, ce sens de Dieu, hein, souvenez-vous de ce qu'on a vu la dernière fois, ce tréocentrisme, la place donnée à la vertu de religion, à l'adoration, donc, ce sens de Dieu, ce sens de l'adoration et le christocentrisme mystique de Bérulle, coloré d'une tendre dévotion à Marie, constitueront avec le souci de la sainteté des prêtres l'essentiel de l'héritage bérullien. Donc vous avez, voyez, sens de Dieu, sens de l'adoration, ou on pourrait dire de la vertu de religion, christocentrisme mystique, la place de la Vierge Marie et le souci de la sainteté des prêtres, vous avez là non seulement Bérulle, mais toute l'école française, Saint-Sulpice, l'Oratoire, et ce qui va former des générations de prêtres, un peu avec ces mêmes accents. Donc voilà pour Bérulle. Ajoutons une chose, c'est que Bérulle, paradoxalement, vous voyez, c'est vraiment le pilier, c'est vraiment l'inspirateur, c'est l'âme, c'est lui vraiment, oui, l'âme de toute l'école française. Et en même temps, ça n'est pas à lui qu'on va avoir, enfin plutôt, la diffusion de sa pensée ne va pas passer essentiellement par ses œuvres, mais par ses disciples. La raison de ça, c'est que son style va être rapidement démodé, y compris dans les décennies qui vont suivre. Donc son œuvre écrite a connu une diffusion restreinte, son influence directe a été de ce fait réduite, mais c'est surtout à travers ses disciples qu'on va avoir un rayonnement si fort en fait de la pensée bérullienne. Et le Carmel français bérullien jusqu'au XXe siècle bien avancé, a été aussi un canal de diffusion du bérullisme. Alors, on va faire connaissance avec quelques-uns de ses disciples. Charles de Condrin. Charles de Condrin meurt en 1641. Alors, de Condrin, ça s'écrit comme ça. Charles de Condrin. C'est le premier successeur de Bérulle à la tête de l'oratoire. Un homme très important, il a orienté Jean-Jacques Ollier vers la fondation des séminaires, il a une forte influence spirituelle sur lui. Bon, Jacques Ollier, je le dis déjà par avance, ça va être le fondateur de Saint-Sulpice. Donc vous voyez, on peut dire, vous avez Bérulle, Condrin, Jacques Ollier. C'est quelqu'un qui n'a rien publié, mais qui s'est dédié essentiellement à la direction spirituelle, aux conférences, à la correspondance. Mais c'est son expérience et son enseignement que Jean Eudes, autant que Jean-Jacques Ollier, vont reprendre et vulgariser. Il eut de ce fait une influence considérable, plus encore sans doute que Bérulle lui-même. Mais lui-même, vous voyez, avait tout reçu de Bérulle. Condrin, de fait, c'est l'héritier de Bérulle, notamment de son théocentrisme, sauf que Condrin est encore plus augustinien que Bérulle. Vous voyez, c'est un pessimisme encore plus fort. Lui aussi va parler d'adoration en termes de sacrifice, d'immolation, d'état d'hostie, d'anéantissement. Il y a toujours le même vocabulaire. Alors, quand il parle d'anéantissement, ce n'est pas le néant métaphysique, hein, c'est à la lumière du sacrifice du Christ et de l'Eucharistie. Jean-Jacques Ollier maintenant. Alors, Jean-Jacques Ollier, 1657 pour sa mort. C'est le fondateur du séminaire et de la compagnie de Saint-Sulpice. Un homme très important qui a été missionnaire, c'est lui qui est à l'origine de l'évangélisation du Canada, enfin, à l'origine, pas seul, hein, avec d'autres, donc un des initiateurs de l'évangélisation du Canada, un curé pilote, dans sa paroisse de Saint-Sulpice, réformateur de communautés religieuses, maître spirituel. Alors, vous allez voir, il a eu quand même beaucoup de chance, parce qu'il a d'abord été formé par Vincent de Paul, on dirait, on fait pire hein, comme formateur. Donc, Vincent de Paul d'abord. Ensuite, alors là, il y a une très très belle rencontre féminine avec la bienheureuse mère Agnès de Langeac. La mère Agnès de Langeac, moniale, dominicaine, qui va vraiment faire son initiation mystique. Alors, bon, à ce moment-là, il était missionnaire en Auvergne, et c'est à l'occasion donc, de la rencontre avec la bienheureuse mère qu'il va bénéficier de son initiation mystique, et ensuite bénéficier voilà, de la direction spirituelle de Condrin. Alors là aussi, hein, on trouve, c'est vrai, chez lui, une doctrine dans laquelle on peut estimer qu'il y a un pessimisme vraiment excessif sur les conséquences du péché en l'homme. Corruption vraiment extrême. Mais en même temps, c'est un des meilleurs représentants de l'école française, avec une influence considérable, tant auprès de laïcs, de religieuses, que des prêtres et des séminaristes. Il est considéré comme le meilleur vulgarisateur du bérulisme. Le meilleur vulgarisateur du bérulisme. Alors, je dirais que ce n'est pas la peine tellement de reprendre son enseignement. Hein. Je crois que si vous avez bien compris le peu que je vous ai dit sur Bérulle, et mieux encore ce que le père Pitot vous a dit de Bérulle, vous avez tous les grands axes de l'enseignement de Jean-Jacques Olivier. Donc on y trouve aussi cette doctrine, cette ligne spirituelle de l'adhésion, de l'adhérence, de la communion très profonde aux états et aux mystères du Verbe incarné. Alors, il y a quand même une petite chose qu'il faut noter avec lui, c'est que quand même chacun de ses auteurs a sa note propre, et sa note propre à lui, c'est qu'il va passer par une épreuve spirituelle très profonde, et faire une expérience personnelle forte de l'action de l'Esprit-Saint. Et plus explicitement que chez Bérulle, vous avez vraiment des mentions de l'Esprit-Saint comme ayant la première place dans la vie chrétienne. Dans son catéchisme chrétien de la vie intérieure, le tout premier chapitre est consacré à l'Esprit-Saint. Et on peut dire que tous ces conseils se résument en cette simple phrase que je vous ai mise. Il nous faut entièrement laisser au Saint-Esprit et le laisser agir en nous. Nouveau grand Bérulien, Saint Jean Eudes. Alors, vous voyez en passant hein, que ce n'est pas tout à fait les mêmes générations. Hein. C'est pas tout à fait. Bérulle, vous voyez, meurt en 1629. Vous voyez, il y a vraiment une grosse génération. Il y a une petite génération d'écart avec Ollier et à nouveau une petite génération d'écart entre Ollier et Jean-Eudes. Alors, Jean-Eudes, des grands Béruliens, c'est le plus abordable. Il entre à 22 ans à l'oratoire, et c'est un missionnaire. Alors là, bon, je fais une toute petite parenthèse pour dire que les jésuites à l'époque sont missionnaires, les capucins sont missionnaires, les disciples de Condrin sont missionnaires, les disciples de Vincent de Paul sont missionnaires. Ça, je crois que c'est, je ne l'ai pas tellement dit, mais là, vous voyez, on s'intéresse à la spiritualité, donc des mystiques, mais en même temps des hommes qui ont été profondément des hommes d'action. Hein. On n'a pas, vous voyez, chez eux, ça allait vraiment de pair. Hein. On l'a vu, vous voyez, avec, je vous en ai dit un mot, avec Jean-Jacques Ollier, qui part comme missionnaire en Auvergne. Là, c'est pareil pour Jean-Eudes. Quand on dit missionnaire, à l'époque, c'est surtout des missions de l'intérieur. Hein. Donc, on réévangélise les campagnes. Alors, c'est en raison de son ministère, à la fois de missionnaire et de directeur spirituel, qu'il se met à écrire, et à écrire beaucoup, en visant aussi bien les prêtres qu'un large public. Il fonde aussi un institut pour l'accueil des anciennes prostituées. À 41 ans, il quitte l'oratoire pour fonder un séminaire, puis la congrégation de Jésus et de Marie, dont il assume la charge, ce qu'on appelle aujourd'hui les eudistes. Et c'est très proche, hein, tout ça, vous voyez, l'oratoire, Saint-Sulpice, les eudistes, il y a vraiment un tronc commun. Alors, dans ses écrits, il développe une pédagogie spirituelle et liturgique dont se dégage notamment la dévotion au cœur de Marie, puis les premiers linéaments de la dévotion au cœur de Jésus. Alors, je vous ai mis quelques textes de lui. On retrouve les schémas, les schèmes fondamentaux de l'école française. Regarder Jésus, l'adorer, le remercier, se donner à lui pour entrer dans ses sentiments. Alors, on peut lire, si vous voulez bien, les textes que je vous ai mis de lui. Vous voyez ce qu'est la vie chrétienne. Une continuation et un accomplissement de la vie de Jésus. Que toutes nos actions doivent être une continuation des actions de Jésus. Que nous devons être comme autant de Jésus sur la terre pour y continuer sa vie et ses œuvres et pour faire et souffrir tout ce que nous faisons et souffrons saintement et divinement dans l'esprit de Jésus. Et voilà où on rencontre vraiment l'école française, c'est dans la suite, c'est-à-dire dans les dispositions et intentions saintes et divines avec lesquelles Jésus se comportait dans ses actions et souffrances. Vous voyez, on pourrait dire, les premières lignes, bon, ça, c'est quand même, heureusement, très traditionnel, très courant, mais vous voyez, cette insistance sur les dispositions intérieures. Disposition sainte et divine d'offrande toujours de Jésus. Alors là aussi, hein, il y a des petits accents. Peut-être que chez lui, l'accent ce serait l'insistance à notre incorporation dans le Christ par le baptême. Notre incorporation dans le Christ par le baptême. Alors, vous me direz, Bérulle en a parlé, hein, évidemment, aucun n'a ignoré ça. Mais disons que c'est peut-être un point d'accent chez lui. Et puis, là aussi, hein, comme tous les autres Béruliens, une conception très haute du sacerdoce. Je ne sais pas. Pardon, excusez-moi pour la minuscule pour le nom de Jésus. Alors, on va lire ça. Un prêtre, c'est un Jésus-Christ vivant et marchant sur la terre. Un prêtre, c'est un Jésus-Christ vivant et marchant sur la terre. Car il tient la place de Jésus-Christ, il représente sa personne, il agit en son nom, il est orné de son autorité. Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé, dit notre Seigneur, c'est-à-dire je vous envoie pour dissiper les ténèbres de l'enfer qui couvrent la face de la terre, pour éclairer le monde de la lumière du ciel. Je vous envoie pour travailler à la destruction de la tyrannie du péché, et à l'établissement du règne de Dieu, je vous envoie pour continuer l'office que j'y ai exercé de médiateur entre Dieu et les hommes, de juge et de sauveur. un texte intéressant parce que vous avez en fait en 6 lignes le portrait du prêtre français. Quand je dis français, c'est pas exclusif, hein. Je parle de ceux que je connais un petit peu, mais le portrait de la conception du sacerdoce en France pendant 3 siècles. Vous me direz, le curé d'Ars, on le retrouve là-dedans. C'était tout à fait, mais voyez, une conscience, ce qu'on trouve chez le curé d'Ars, il le reçoit, si vous voulez, c'est tout à fait consonant avec cette vision du prêtre, cette représentation du prêtre que véhicule l'école française et qu'elle va enseigner dans ses séminaires en France et ailleurs. Alors, on dirait aujourd'hui, il manque des choses, et peut-être il faudra compléter. Peut-être, mais cette figure très, avec un sens très très haut de la dignité du prêtre, de très haut de sa mission, de ce pourquoi il est fait, etc., de son autorité, du pouvoir que le Christ lui donne, ça, évidemment, c'est quelque chose de très beau que Saint-Sulpice a donné au clergé français. Alors, nouveau personnage, et là, encore une génération, c'est Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors là, vous voyez, on est quasiment un siècle après Bérulle. Saint-Louis, alors Grignon, ça s'écrit comme ça, G-R-I-N-I-O-N, de Montfort. Il y a T-F-O-R-T, et il meurt en 1716. Donc, vous voyez, on commence avec lui, on entre dans le 18e. Vous voyez, c'est le dernier grand représentant de l'école française, ce qui vous montre que l'école française, c'est le 17e siècle. Hein. Et vous voyez, même, c'est en fait, son âge d'or, c'est la première moitié du 17e siècle. Alors, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, vous connaissez peut-être des grands textes de lui, hein, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ou le secret de Marie. Alors, là aussi, un bérulien, donc je ne vais pas reprendre hein, tout ce qu'on a dit de Bérulle, et aussi des accents particuliers. Alors, chez lui, un des accents particuliers, c'est le fait qu'il contemple la personne du Verbe incarné à travers le thème de la sagesse éternelle. Donc, pour Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, il n'y a pas de doute, si vous voulez, quand l'Ancien Testament parle de la sagesse, il y voit avant tout la figure, l'annonce du Verbe incarné. Il est formé au sacerdoce à Saint-Sulpice. Il en reçoit l'influence marquante de Bérulle et d'Ollier, qui s'ajoute à une très forte dévotion personnelle à la Vierge Marie. Et on peut dire que la Vierge est définitivement au cœur de sa vie et de son ministère de missionnaire, parce que là encore, hein, avec Louis-Marie Grignon de Montfort, comme avec les prédécesseurs, vous avez d'abord un missionnaire. Grand mystique, oui, mais un missionnaire. Et vous aurez aussi un fondateur. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Montfortins, bon, c'est aussi un fondateur. Alors lui, évidemment, outre donc le thème de la sagesse éternelle, c'est sa très forte empreinte mariale. Alors, il fonde d'abord une congrégation féminine, les filles de la sagesse, dévouées aux plus pauvres, et il s'adjoint ensuite quelques frères et prêtres, les futurs Montfortins. L'aspect majeur de sa pédagogie apostolique est l'insistance mise sur la dévotion à Marie et la proposition du Saint-Esclavage. Le but dernier demeure le règne de Dieu dans le monde et dans les âmes, mais le chemin, c'est Marie. Je vous cite ce petit passage de lui. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu dans le monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Bon, c'est quelque chose qui est souvent répété de lui. Hein.
À Jésus par Marie.
Voilà, à Jésus par Marie. À Jésus par Marie. Alors, un petit mot quand même sur cet esclavage à Jésus par Marie, bon, qui met un peu mal à l'aise. Parler d'esclavage aujourd'hui, on a tout de suite en tête une réalité très dramatique, donc esclavage, bon, on ne peut pas dire que ce soit un mot qui ait beaucoup de succès. Chez lui, il s'est expliqué dessus, hein, c'est un chemin de libération. En fait, c'est un chemin de libération. Par le renoncement, par le don complet de soi, chemin de libération pour conduire à l'union totale à Dieu en Jésus par Marie. Donc vous voyez, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort reprend les vœux de servitude à Marie et à Jésus qu'avait pratiqué et conseillé Bérulle pour ce qui est du vœu de servitude à Jésus et plutôt Ollier pour le vœu de servitude à Marie. Il unit les deux, si vous voulez. Mais il va détailler très longuement les avantages de cette pratique et en faire un peu une pratique populaire, vous voyez. À la fin des missions, volontiers, il proposait, vous voyez, à ceux qui avaient participé à ces missions, vraiment de faire ce vœu et d'y entrer. Alors, autre aspect sur lequel Saint Louis-Marie parle beaucoup, et c'est là où on voit l'empreinte de Saint Jean-Eudes, c'est la place du Saint-Esprit. Vous voyez, je dis ça au passage, hein, on dit, oui, le Saint-Esprit, l'Église a oublié le Saint-Esprit jusqu'à Vatican II, il a fallu Vatican II pour qu'elle retrouve le Saint-Esprit, bon, heureusement, l'Orient n'avait jamais oublié le Saint-Esprit. Il y a du vrai dedans, et en même temps, il ne faut pas trop le durcir. Pas trop le durcir, la preuve. Hein, la preuve. Je vous cite un petit passage de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, vous allez voir. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, a trouvé la Vierge. Quand le Saint-Esprit, l'époux de la Vierge, a trouvé Marie dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et l'une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Vous voyez, c'est ce lien Marie, l'Esprit-Saint, mais pas l'un sans l'autre. Et donc, pas la Vierge non plus sans l'Esprit-Saint. Bon, vous savez que parmi les critiques faites à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, on l'a traité de mariolâtre. Facile quand même de mettre les choses au point. Je vous donne ce petit texte. Est-ce que vous l'avez ? Non, vous ne l'avez pas. Ah pardon, je ne vous ai pas prêt. Ben, je vous donnerai la prochaine fois la feuille de route numéro 15. Voilà ce qu'il dit. Première vérité. Il fait une liste. Première vérité. Jésus-Christ, notre Sauveur. Vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elles seraient fausses et trompeuses. Là, si vous voulez, les choses sont claires. Et le critère, si une dévotion ne conduit pas au Christ, elle est fausse et trompeuse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection. Si donc nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ, ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-Christ. Donc là, je crois que les choses sont claires. Il est lavé de tout soupçon et absous. Ça reste bien un chrétien et pas un mariolâtre. Alors, dernier point à propos de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est que la très grande influence de ses écrits, je dis bien de ses écrits, ne s'est exercée que bien après sa mort. Vous voyez, on a redécouvert vraiment ses écrits. Quand je dis qu'ils n'ont été redécouverts, c'est que ou plutôt je vais dire les choses autrement, le traité de la vraie dévotion n'a été publié pour la première fois qu'en 1843. Donc vous voyez, plus d'un siècle, un siècle et 30 ans quasiment, après sa mort. On ne savait pas qu'il avait écrit ça, enfin on en avait perdu la trace. Donc ça n'a été publié que beaucoup plus tard. Et pire encore, l'amour de la sagesse éternelle n'a été publié qu'en 1929. Donc plus de deux siècles après sa mort. Alors c'est un peu d'actualité, vous savez combien un homme comme Jean-Paul II, Carole Wojtyła, a été marqué très profondément par Saint-Louis-Marie de Montfort. Alors, on a vu les Béruliens, je voudrais dire un mot maintenant, terminer un petit peu sur ce XVIIe siècle. Bon, français, hein, de la spiritualité française. Donc les Béruliens, je crois qu'il fallait leur donner la place centrale. Mais il faudrait en fait parler encore très longtemps, je ne vais pas le faire, je vais juste vous citer quelques noms, de quantité de grands mystiques. C'est ça qui est extraordinaire à cette époque. Vous voyez, il y a eu le XVIe siècle espagnol, on a vu combien ça a été riche. Ben, on peut dire que la première moitié du XVIIe siècle français, là aussi, c'est un printemps, vous voyez. Bon, on est un peu, je crois que la saison actuellement nous permet de sentir ça. C'est un printemps, et vous avez des tas de saints, de figures extraordinaires. Alors, je commence par Saint Vincent de Paul. C'est pas un Bérulien, et en même temps, il a quantité de liens avec des Béruliens. Voilà un autre grand géant de cette époque. Alors, c'est un converti, il a vécu une conversion, il était prêtre et il s'est converti. Alors, sa conversion, je le redis, ça s'est opéré dans la mouvance de Bérulle. Sa spiritualité demeure une spiritualité d'adhérence. Donc là aussi, vous voyez, il y a des points communs avec Bérulle. Et en même temps, il y a aussi l'influence de Saint-François de Sales. Vous voyez, Saint-François de Sales, Bérulle, tous ces milieux-là, ça se rencontre beaucoup. Il y a une grande estime mutuelle, donc ils prennent à chacun le meilleur, des autres. Une génération plus tard, alors là on est plutôt, c'est un contemporain de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, vous avez Saint-Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des Frères des écoles chrétiennes. Pédagogue, formé à l'école de Saint-Sulpice. Vous voyez. D'autres figures, là jusqu'à présent j'ai nommé des prêtres, mais vous avez aussi des laïcs, deux saints laïcs, Gaston de Renty, Jean de Bernière, c'est des hommes de la première moitié du XVIIe, Jean de Bernière meurt en 1659. C'est des hommes qui ont une vie mystique, mais vraiment impressionnante. Et pour Gaston de Renty, que je connais un peu mieux, c'est un homme qui est passé en même temps par des épreuves étonnantes. Sa propre mère lui fait des procès pour le déshériter complètement et le mettre vraiment sur la paille. Et il supporte ça avec une abnégation, une sainteté, une patience. Il pardonne tout. Enfin, c'est admirable. Bon, Gaston de Renty. Vous avez aussi des jésuites, Louis l'Allemand, mort en 1635. Le père Surin, Jean-Joseph Surin, bon là c'est un peu plus complexe, 1665. Des Capucins, bon je vous ai parlé de Benoît de Canfeld, de Joseph du Tremblay, vous voyez, là aussi, Benoît de Canfeld meurt en 1610, Joseph du Tremblay, l'éminence grise, 1638, vous voyez, un peu les mêmes périodes. Vous avez des femmes, Jeanne Mance, Marie de l'Incarnation, meurt en 1672, c'est la fondatrice des Ursulines à Québec. Là aussi, grande mystique, vous voyez. Et femme d'action, et combien? Alors, qui nous a laissé une relation spirituelle qui fait le récit de toute son ascension mystique? Bossuet l'appelait la Sainte Thérèse de la Nouvelle-France. Nouvelle-France était le nom donné au Québec. Donc, la Sainte Thérèse de la Nouvelle-France, ça vous dit un petit peu quelque chose de sa très grande valeur spirituelle. Et je le redis, hein, si vous avez tous ces grands spirituels, vous avez aussi une période, hein, et peut-être ce n'est pas étranger, c'est même pas du tout étranger, une période de grande de fondation, d'élan apostolique, d'élan missionnaire. Ce printemps spirituel de la première moitié du 16e, du 17e est aussi une période très très riche. Fondation, vous voyez, de la Compagnie du Saint-Sacrement, 1627, des Dames et des Filles de la Charité, 1633, des Frères des Écoles Chrétiennes, 1684, l'Évangélisation de la Nouvelle-France, Fondation de Montréal, 1642, Congrégation de la Mission, 1625, l'œuvre des séminaires, même période, Saint-Nicolas du Chardonnay, comme paroisse et séminaire à la fois, avec Bourdoise, Saint-Sulpice avec Jacolier. Enfin, vous voyez, une période très riche de fondation. Voilà.
Dans les mystiques, vous ne citez pas Saint-Pierre Vianney à la coque.
Alors, je vais la citer un peu plus.
Est-ce qu'elle a une influence à l'époque même ou absolument?
Ah, bah oui, bien sûr.
Ou c'est que au 19e siècle?
Sainte Marie à la coque, si tu veux, de son vivant, là j'avoue, je ne saurais pas, je préfère ne pas dire de bêtises, mais j'en reparlerai. Hein. Elle meurt en 1690, donc effectivement, on pourrait la nommer aussi. Je vais en parler après, avec le culte du Sacré-Cœur, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'est moins elle, bon, il y a ses révélations, évidemment, mais ce qui m'intéresse plus, c'est le développement du culte du Sacré-Cœur. Et là, je vais en parler au 18e. Et voilà, on entre dans un nouveau chapitre que j'intitule « Le crépuscule des mystiques et saint Alphonse de Ligorie ». Donc là, vous voyez, on a eu un 16e siècle avec très riche en Espagne et Italie, 17e siècle très riche en France. Bien. Et vous allez voir après... on va assister à un siècle plus pauvre, certain appauvrissement. Particulièrement au niveau de la créativité, vous voyez. On ne va plus avoir au XVIIIe siècle de très grands noms. Si je vais vous parler de Saint-Alphonse de Ligorie, mais sinon, même Saint-Alphonse de Ligorie, on verra, c'est pas, il est génial, mais en même temps, ce n'est pas original, vous voyez. C'est génial parce que ça répond vraiment aux besoins de son temps. Il a fait une œuvre très riche de vulgarisation, mais c'est pas un génie spirituel au même sens qu'Ignace, que Thérèse d'Avila, que Bérulle, autre chose. Donc pour parler un peu de cette période, Eulogio Paccio parle, vous voyez, de cristallisation et de fossilisation. Il est quand même pas fossilisation, c'est quand quelque chose devient un fossile, vous voyez. Devient pierre, se pétrifie un peu. C'est un peu sévère, hein. Quand même, ça dit quelque chose. Alors, surtout, là, je vous donne, et comme ça va sonner, enfin, comme ça va être l'heure, je vous donne au moins le cadre général. Pendant ce XVIIIe siècle, on a des populations et des sociétés qui sont nominalement chrétiennes, nominalement catholiques même, pour les États catholiques. Donc, on vit comme on a vécu, j'allais dire, avec les mêmes références qu'au XVIIe. La Révolution française va commencer, les États généraux sont ouverts, c'est ce qui va un peu déclencher la Révolution française. Ça commence par une grande procession du Saint-Sacrement, où tous les députés aux États généraux ont un cierge à la main et suivent dévotement le Saint-Sacrement, y compris Robespierre. Et nominalement, on est catholique. Formellement, on est catholique. On assiste tous à la messe le dimanche. Y compris quand soi-même, on est complètement libertin. Et voilà la rupture, vous voyez. C'est que, donc, nominalement catholique. Au niveau des masses, on reste catholique, on reste chrétien. Mais voilà, au niveau des élites, c'est en train de basculer, vous voyez. C'est le siècle où ça va basculer, où il y a des ruptures, vous voyez. Au point que, à partir de la dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a vraiment une évolution, la montée progressive d'une mentalité plus sceptique, plus rationaliste, naturaliste, chez les élites d'abord, puis petit à petit, ça va s'étendre, évidemment. Mais pour l'instant, c'est surtout les élites. Vous voyez. Donc, sceptique d'abord, ensuite rationaliste, naturaliste, et puis on en arrive à des gens qui sont foncièrement athées. Le baron d'Holbach était athée. Alors, chez Voltaire, chez Diderot, on est encore déiste. On utilise la religion pour ses serviteurs. Voltaire fait construire une chapelle dans son domaine et tient absolument à ce que tous ses serviteurs aillent à l'église en disant s'ils vont bien à l'église, au moins ils ne vont pas me voler. Mon valet sera moins voleur s'il va bien à l'église. Mais pour lui et pour tous ses amis, alors là, on est bien au-delà de ces choses-là. Pour nous.
Eux, ils peuvent voler.
Tire les conséquences, mais en tout cas, ces enfantillages ne sont plus pour nous.
C'est parce qu'ils vendent de lui un peu plus avant. Moi, je pense par exemple à une figure comme le cardinal Lorenz, grand administrateur de l'église à Paris, et en même temps avec une vie morale, tout archevêque qu'il était, qui a pu être seulement.
Ah oui, mais ça, si tu veux, c'est là où il faut faire là. Des gens immoraux, il y en a toujours eu. Hein, des gens qui ont vécu n'importe comment, y compris à tous les étages de l'Église, vous avez vu ça. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Ce qui va être nouveau là, c'est des gens comme... Alors là, je te rejoins, et on remonte un petit peu, on remonte à la rupture, 17e, 18e, Pierre Bayle. Alors là, voilà. Pierre Bayle, c'est écrit comme ça, B-A-Y-L-E. C'est... Là, vous avez... Il se gardera bien de dire qu'il est athée. Et de fait, je ne pense pas qu'il soit athée. Mais alors, c'est le sceptique. C'est le sceptique. Il ne va pas écrire des ouvrages antichrétiens. Non, il se gardera bien. Mais il va écrire... C'est le premier à écrire sur le mode de l'encyclopédie. Parce que écrire sur le mode de l'encyclopédie, ça va être génialement repris ensuite par les auteurs de la grande encyclopédie du XVIIIe. Le génie, c'est de se mettre à distance et de dire... Mais moi, je suis objectif. Donc, pour définir tel mot, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, vous voyez. Apparemment, vous êtes très objectif. Vous dites, mais bien sûr, pour l'Église, c'est ça. Mais il y en a qui disent ça. Et à vous d'écrire votre article de telle façon que on voit bien, en fait, quelle est la position la plus rationnelle, la plus intelligente, et celle qui est un peu bébête, quoi. Donc Pierre Bayle, Pierre Bayle, c'est le premier vraiment sceptique qui écrit, tu vois, qui diffuse ses idées. Et qui le fait de façon suffisamment prudente pour ne pas se mettre en difficulté. Donc c'est ça un peu. Là vous avez le cadre. Et puis, bon, excusez-moi, je dépasse beaucoup. On va avoir donc ce contexte mental, évidemment, qui va peser. Donc on va rencontrer les Lumières. En présentant un peu ce cours, et qu'est-ce que ça joue sur la spiritualité. Et puis deux grandes crises antérieures, jansénisme et quiétisme. Donc là, vous avez le trio, quiétisme, enfin non, d'abord, jansénisme.